Bienvenue dans Dents Creuses, un espace radiophonique libre dans lequel on vous propose de réfléchir à plusieurs sur des sujets qui ont trait au territoire, à là où nous vivons, à là d'où nous venons, à là où nous allons. Des sujets universels qui résonnent en chacun chacune. Dents Creuses, un jargon farfelu en aménagement pour désigner une parcelle non bâtie dans un tissu construit, un espace où tout reste à penser en quelque sorte. Dents Creuses, une émission pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent.
Nous sommes Bigmo et Ali. Nous sommes toutes deux urbanistes, facilitatrices, médiatrices, mais pas que. Nous proposons cet espace pour partager des réflexions qui émergent dans notre pratique professionnelle, mais qui n'en restent pas moins universelles. Charge à nous de faire de cet espace radiophonique un endroit dans lequel on se comprend, dans lequel on fait commun, dans lequel on fait politique. À nous et à vous les micros.
Le sujet du jour aujourd'hui, on a choisi une autre marotte après vous avoir parlé de la fierté de venir de quelque part ou non dans la précédente émission. Aujourd'hui, on est reparti d'un petit jeu qu'on aime bien faire avec Ali, notamment quand on revient de nos concertations quand on est en voiture. C'est un jeu que tout le monde connaît, c'est le « tu préfères ». Sauf que notre « tu préfères » à nous, il s'inspire un peu des endroits qui nous mettent pas super bien, qui nous inspirent un peu de peur, un peu de malaise. Et souvent, on se dit, tu préfères habiter là ou habiter là, et les choix sont pas franchement faciles. Donc, pour commencer, on s'est fait une petite liste des endroits qui nous faisaient peur, qui venaient un peu de ce jeu, et on vous les dit pêle-mêle.
Aller chercher un truc à la cave.
Regarder sous le lit.
Les portes du périph' à Paris.
Les manifestations depuis la loi travail.
Les bois la nuit.
La peur du noir.
La peur d'être seul dans une maison le soir, notamment en haut, quand on peut pas surveiller la porte d'entrée qui est en bas.
Ah ouais. La peur du son, d'un festival au loin quand on arrive.
La peur d'un endroit estampillé, mauvaise rencontre possible en tant que femme.
La peur du camping sauvage aussi, loin de la civilisation, éloignée.
La peur de dormir la nuit en dehors d'un chez-soi un peu familier.
La peur des lieux de religion, les églises, les cimetières.
La peur des lieux déserts. Mais la peur, c'est quoi en fait? C'est un peu la première question qu'on s'est posée. Souvenez-vous, on aime bien toujours démarrer par une première étape de définition. Et donc, la peur, parmi les différentes définitions qu'on a pu trouver dans tous les bons dictionnaires et papier ou en ligne, la peur fait référence à un danger réel ou à une menace supposée, et elle est une émotion face à la présence de ce danger ou la pensée de ce danger. Il existe des peurs individuelles, des peurs collectives, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment une émotion, un ressenti qui agit comme un signal d'alerte pour nous mettre en action. Et donc cette émotion, elle a vraiment une fonction dans notre développement, dans nos comportements, on y reviendra. C'est une émotion qui est souvent perçue comme négative. Pourtant, c'est un indicateur très important qui peut nous freiner, qui peut nous amener à ne rien faire, à rester figé, ou au contraire nous motiver à faire, à éviter, à fuir. Et puis bien sûr, à partir du moment où on s'intéresse à la peur, on regarde un petit peu l'échelle d'intensité de cette émotion, puisque on a un panel très important. On peut parler de trac, d'inquiétude, d'appréhension, de crainte, d'anxiété, d'angoisse, de frayeur, d'effroi, de panique, de phobie, de terreur, d'horreur, d'épouvante. Donc en fonction de où on se situe, on va avoir effectivement une intensité plus ou moins forte. Et en tout cas, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est pourquoi,
je le dis en même temps que toi, c'est pourquoi certains endroits nous font peur et pas d'autres. Et derrière cette question, c'est aussi, comme tu le disais, on a des peurs collectives et des peurs individuelles. Donc qu'est-ce que ça dit de nous, de ressentir de la peur face à certains endroits, de pas être d'accord aussi sur les endroits qui nous font peur? Ça, on l'a souvent dans notre jeu toutes les deux. De se demander aussi à quoi ça peut bien nous servir de ressentir un truc aussi désagréable que la peur, aussi intense face à certains endroits. Est-ce que des fois, d'ailleurs, c'est pas trop un peu exagéré par rapport au risque réel? Et en fond, finalement, en filigrane de notre réflexion, c'est de se demander, est-ce que la peur, on doit toujours l'écouter ou est-ce qu'il faut la dépasser, notamment dans notre rapport aux endroits, aux environnements, aux territoires?
À quel point ça peut être individuel, un sujet aussi collectif qu'un territoire?
Mais tout à fait. Pour mener ce travail, cette réflexion, on n'est pas parti toute seule. On avait besoin un peu d'être avec des expertes des sujets de la peur, de ce que ça fait sur la psyché, sur le corps. Et pour ça, vous entendrez un peu tout au long de notre émission des réflexions de Stéphanie et Marie, qui sont toutes deux psychologues. Je les présente quand même rapidement. Stéphanie, elle est psychologue à Rennes. Elle a une longue expérience à Djibouti et elle a beaucoup travaillé sur comment l'enfant et le développement de l'enfant, plus largement, il interagit avec son environnement. Marie, quant à elle, elle est psychologue à l'éducation nationale. Elle a une longue expérience d'assistante sociale et son regard est aussi précieux pour comprendre comment on passe d'une situation à une autre et comment ces transitions, elles sont structurées par des contextes qui nous dépassent bien souvent. Donc voilà, vous les entendrez au fil de l'émission et puis nous, on y fera pas mal référence. En tout cas, comme on a un petit syndrome là de bon élève, on a bien défini les termes et on a préparé un plan en trois parties. On va vous parler des trucs évidents, d'abord, du rapport de à quoi ça sert cette peur, puis on ira dans les trucs plus niches pour après aller dans les trucs carrément tordus. Et pour rentrer dans le sujet, on va vous passer déjà une chanson de Camille Yembe, qui est trop chouette et qui passe d'ailleurs à la nouvelle vague à Saint-Malo à la rentrée. J'ai peur de quoi ?
Tout recommencer pour qu'hier n'existe plus. Baguette magique, abracadabra, la lumière fut. Si tu pouvais tout refaire, rien qu'une fois. Enfin, le ferais-tu? Bébé, j'ai peur de quoi? De quitter la fête, de quitter la pièce. Toujours peur de rater un je ne sais quoi. Bébé, j'ai peur de quoi? Bébé, j'ai peur de quoi? De quitter la fête, de quitter la pièce. Toujours peur de rater un je ne sais quoi. Bébé, j'ai peur de quoi? Boum boum dans la poitrine. Courage, un papier mâché. J'dis que j'ai pas peur, mais j'ai menti. Bébé, j'ai peur de quoi? Une première fois, là dans la caisse, tout est joli, tout est joli. Puis on voit nos têtes, un million de fois encore. Tout est fini, tout est fini. Bébé, j'ai peur de quoi? De quitter la fête, de quitter la pièce. Toujours peur de rater un je ne sais quoi. Bébé, j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi?
On est toujours sur Canal B dans Creuse et on commence notre première partie sur pourquoi finalement certains endroits nous font peur et pas d'autres. Et on va commencer par les évidences. Bah déjà, ça doit nous servir la peur à ne pas aller dans un lieu dangereux. Pour ça, on va écouter Stéphanie.
Donc on se redisait, le truc du mot de la peur qu'il fallait du coup lui rendre ses lettres de noblesse. Tu disais.
Ouais, alors je sais pas si c'est de la noblesse, mais je veux dire que déjà avoir peur, c'est pas mauvais, c'est comme un outil pour apprendre à grandir. Mmh. Et l'idée, c'est de le remettre, de l'expliquer, de dire que c'est une émotion et que c'est une émotion qui est ni bonne ni mauvaise. C'est une émotion qui fait partie de notre bagage, comme la colère, comme la joie, comme et qui permet de savoir que il y a quelque chose qui te met en alerte, et ça te met en alerte parce que il y a éventuellement un danger ou il y a danger. Chez les Grecs, la peur, il y a deux termes, il y a déos, et c'est une peur, c'est une crainte réfléchie, mentalisée et contrôlée. Ce qu'on peut mettre du côté de l'apprentissage de la peur dans le développement quand tout se passe bien, et où là, après, on passe dans phobos, qui est peur intense, irraisonnée, accompagnée d'une fuite, l'évitement, et c'est ce qui fait que ça va renforcer la phobie, et qui va devenir une anxiété anticipatoire. Et je trouve que les deux points de départ, ils sont là.
Merci Stéphanie. Là, ce qui est très intéressant, c'est que on a mis ça tout d'abord en premier dans l'émission, c'est de bien comprendre que la peur, elle a une fonction. Et que cette fonction, même si c'est très désagréable de traverser la peur, c'est une fonction saine. Et quand on échangeait aussi avec Marie, on comprend que le problème en fait de la peur, c'est pas quand elle agit comme ça, comme un simple signal, parce que ça va nous permettre de réagir, de mener des actions. C'est bien quand le système d'alarme, il est toujours à fond. Et que finalement, on est en hyper-vigilance face à tout, même face à ce qui n'est pas vraiment un risque. Et c'est ça qui nous ferait entrer dans ce que Stéphanie qualifie de phobos et qui nous coûterait finalement beaucoup en termes d'énergie pour notre psychisme et pour notre corps. Je reviens sur... en fait, la peur, elle sert à ne pas aller dans un lieu dangereux. Et donc, par rapport à ça, Marie aussi nous explique qu'on va avoir une peur qui va agir dans notre cerveau. Des fois, c'est bien de revenir dans un truc très rationnel pour comprendre qu'on ne se fait pas des films. Et donc, on a une amygdale dans notre cerveau. C'est une glande qui va réagir à une situation. On voit la situation, on réagit et on va avoir des manifestations qui peuvent être des manifestations physiques, des palpitations, de la douleur, du malaise, de l'inconfort, et aussi des manifestations cognitives. On n'arrive pas à se concentrer, on est toujours dans nos pensées, on peut même avoir peur de devenir fou. Et en fait, c'est parce que notre corps réagit comme ça qu'on va pouvoir mettre en place, nous, un comportement que nos amis psy qualifient d'un comportement adaptatif. Et j'ai bien aimé savoir ça. En gros, face à un endroit qui fait peur, on aurait trois réactions possibles et issues de nos ancêtres fort lointains. On aurait combattre, fuir ou se figer. Et je parle des ancêtres bien lointains parce que ça renvoie un peu à ce qu'on entend souvent, là, l'histoire du cerveau reptilien, qui serait ce cerveau-là qu'on a gardé depuis la préhistoire au fond de nous et qui nous permettrait finalement d'expliquer nos comportements primitifs. Et en gros, on a des peurs aussi qui sont des peurs vraiment historiques. Et c'est normal d'avoir peur du noir, c'est normal d'avoir peur des insectes dangereux, c'est normal d'avoir peur du rejet, de la séparation, et c'est normal d'avoir peur d'endroits qui nous mettent en danger. Et en discutant avec Ali, je lui disais « Ah ouais, ça me fait penser à une maladie dont j'ai entendu tout récemment parler. » Donc c'est un nom très scientifique, donc je vais le dire très doucement. Une insensibilité congénitale à la douleur. Où, en fait, c'est une maladie rare où les gens perdent la sensation, le sens de la douleur. Et on pourrait se dire « Bah, j'en mets quoi, enfin, je ressens plus de douleur, je peux être bien dans mon corps. » Mais en fait, c'est véritablement dangereux parce que ce sont des gens qui vivent sans système d'alarme. Et sans système d'alarme, l'humain, il peut pas réagir. Du coup, il peut pas se prendre en charge et il va s'exposer toujours à plus de dangers sans le savoir. Et donc, se mettre en difficulté de survie. Le mot, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, c'est ça. La peur, elle est intéressante quand elle nous permet d'éviter un endroit dangereux pour maintenir notre survie. Et je trouvais que le parallèle avec cette maladie, il était intéressant parce que sans peur, on peut pas survivre.
Et d'ailleurs, historiquement, on a construit des lieux, on a construit des mythologies autour des lieux à éviter. Ouais. Et la peur a servi à ne pas aller dans certains endroits. Et on repensait par exemple avec Big Mo à la peur du Nouveau Monde entre le 15e et le 17e siècle, où il y a une grande partie du globe qui n'est pas connue des Européens, en tout cas mal connue, et que c'est la période des premières grandes expéditions de découverte du Nouveau Monde. Et à ce moment-là, il y a des cartographes qui représentent, qui dessinent les contours du monde connu et qui sont amenés à combler les vides de toutes les zones qui n'ont pas été explorées et qu'on ne connaît pas encore et qui sont systématiquement associées à des dangers sur les cartographies qui peuvent être absolument magnifiques. On voit souvent dessiner des monstres marins avec des créatures fantastiques, des serpents de mer, des baleines géantes ou bien des peuples étranges, des géants, des êtres monstrueux, des peuples sauvages voire cannibales. On voit dessiner des représentations de tempêtes terribles, de terres hostiles, de jungles impénétrables, etc. Et on voit bien comment la peur, elle sert là à illustrer les récits des navigateurs, à matérialiser l'inconnu et in fine à justifier l'entreprise coloniale qui, par l'exploration, la civilisation et la maîtrise, va permettre de dompter ces dangers. En tout cas, sans rentrer dans cette brèche passionnante, mais qui ne sera pas l'objet de cette émission, on voit que les cartes ont été un support pour appréhender les peurs et les croyances de l'époque, et que ça nous a permis à d'une part, ne pas aller à certains endroits, mais d'autre part, à aller finalement y aller pour les dompter.
Oui, et voire même, je trouve que c'est marrant là, quand tu parles de ça, à documenter, ça ils ne le savaient pas, mais nous ça nous permet de documenter ce qui faisait peur à l'époque, ce qui ne fait plus peur aujourd'hui, et là quand tu parles des monstres marins, etc., on comprend que le rapport à l'eau, il est très inquiétant, que ça fait peur en fait ce qui se passe là-dessous.
Non mais c'est incroyable, tu me proposes une transition magnifique.
C'est hyper étonnant.
C'est dingue. Vers le travail d'un historien qui se présente comme un historien de la sensibilité, qui s'appelle Alain Corbin, et qui a travaillé notamment sur la peur de la mer. Et alors, il a travaillé sur plein d'autres sujets, mais ce qui nous a intéressé sur son travail sur la peur de la mer, c'est comment l'humain a la capacité de modifier son regard sur un objet qui initialement lui fait peur et qui petit à petit, le rapport à cet objet est modifié, construit différemment. Et sur la mer...
La mer, M-E-R.
La mer, M-E-R, absolument. L'océan.
Je répète freudienne.
Et effectivement, sur le rapport à la mer, avant le XVIIIe siècle, on a, donc ça rejoint ce qu'on disait juste avant, hein, peur de la mer en tant qu'une nature qui n'est pas maîtrisable, ou en tout cas difficilement c'est un lieu hostile qui inquiète, qui est associé aux tempêtes, aux naufrages, aux monstres, etc., à la mort, globalement. Et puis, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, le regard va complètement changer. D'abord avec un premier regard savant qui, à travers des naturalistes et des géologues, commence à étudier les côtes et les océans. Et du coup, la mer commence à devenir un objet de connaissance, pas seulement une menace. Deuxième couche, on commence à avoir une approche médicale qui se met en place sur les XVIIIe et XIXe siècle, avec des médecins qui commencent à prescrire des bains de mer pour fortifier le corps. Donc là, les bords de mer deviennent petit à petit des lieux potentiellement thérapeutiques. À cela s'ajoute au XIXe siècle le regard des romantiques qui commencent à découvrir un plaisir un peu paradoxal de contempler ce qui fait peur, avec l'immensité marine, les falaises, les tempêtes, etc. Cette puissance et cette dimension vertigineuse, ça apporte de la contemplation, de l'introspection, etc. Et du coup, il y a un basculement important qui s'opère dans les perceptions où ce qui était repoussé devient à ce moment-là recherché. Et dernière couche du millefeuille, la mer commence à partir du XIXe siècle à devenir une expérience touristique où de la peur on passe au désir. Et là, les aristocrates et la bourgeoisie s'emparent des bords de mer dès le XIXe siècle, comme je disais, pour regarder la mer, marcher le long de la plage, commencer à se baigner. Ça, c'est nouveau. Faire de la thalasso, prendre des vacances au bord de la mer, etc. Et petit à petit, cette pratique se démocratise grâce notamment aux congés payés à partir de 1936 et avec des couches populaires plus populaires qui commencent à pratiquer cet espace-là. Mais en tout cas, pour faire la synthèse de ces différentes couches dont on vient de parler, on peut tout à fait avoir des peurs qui évoluent en fonction des contextes, en fonction de notre rapport à l'objet de peur, peut être complètement différent au fur et à mesure de l'histoire.
D'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis en parlant des couches. Ça me fait penser à ce que Marie nous disait sur la méthode TCC, thérapie comportementale et cognitive, ou thérapie cognitive et comportementale, je ne sais pas dans quel sens, mais qu'en fait, aussi, ce qui modifie le regard sur un lieu qui fait peur, c'est le fait de s'exposer à cet endroit. Et donc, on sent aussi que c'est la connaissance qui va permettre de diminuer la peur, puis le fait de le pratiquer autrement, etc. Et je trouve que c'est marrant d'avoir ce parallèle aussi dans la modification du regard sur le lieu de la mer.
Carrément. Et je pense que aujourd'hui, dans nos peurs plus contemporaines, on essaye de mettre en place un certain nombre de choses. Donc, on a parlé de l'historicité, de quelques exemples historiques du rapport à la peur. Aujourd'hui, la peur, elle a toujours un rôle pour éviter des dangers potentiels contemporains. On s'est intéressé, nous, beaucoup dans notre pratique professionnelle à la question du genre et de l'espace urbain. Et comment, pour les femmes, l'espace urbain peut être un espace extrêmement inquiétant, un espace de danger, un espace de risque, en tout cas, et qu'on va mettre en place des techniques pour éviter certains lieux. Juste une toute petite référence, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un petit bouquin hyper bien fait, simple, pédagogique, synthétique, qui est très, très aidant pour rentrer dans un sujet complexe comme celui-ci, qui s'appelle « La ville faite par et pour les hommes » de Yves Rébaud.
Et pour un homme.
Tout à fait. Oui, moi aussi, ça m'avait fait bugger quand j'avais découvert le livre. Mais du coup, c'est fait un peu comme un que sais-je. Et c'est vraiment super pour rentrer dans ce sujet complexe. Bref. Parenthèse refermée, mais en tout cas, nous, ça nous a intéressé de se dire, et c'est un sujet qu'on travaille beaucoup, de plus en plus, en urbanisme, c'est de se dire comment on pense les espaces publics pour favoriser, pour diminuer le sentiment d'insécurité des femmes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ça serait assez élargi, assez complexe, assez dense, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées. On constate tout de même, il faut quand même partir de là, que la ville, elle est faite, elle est construite pour un étalon de mesure qui est l'homme blanc valide et qui n'a pas trop de rupture de parcours, qui n'a pas trop de mobilité très fragmentée, aller chercher les enfants avec les courses, prendre tel transport en commun, etc. Bref. Il y a une manière de concevoir la ville qui influence ces questions de genre dans l'espace public et qui est prise à bras le corps aujourd'hui, en tout cas dans certains pays, en France un petit peu tardivement, mais tout de même, et certaines collectivités essaient de s'emparer de ce sujet et de manière assez passionnante. Tu voulais dire un truc, j'aime.
Ouais, je voulais juste te dire qu'en t'écoutant, il y a un truc qui me revient en tête et sur lequel on a du mal. Et c'est aussi pour ça qu'on a été voir Marie, Stéphanie et qu'on essaye de croiser notre discipline de l'urbanisme avec d'autres disciplines. C'est qu'en fait, quand on se dit qu'on va aménager un espace public pour que les femmes se sentent bien, je dis souvent à Alice, on va pas aménager un polypocket ou une salle de danse. Enfin, on peut pas penser notre approche de manière genré. En fait, c'est deux faits et c'est l'historicité de notre société, enfin tout ce qui s'est passé qui fait que ces espaces sont des espaces où les hommes sont à l'aise et les femmes sont mal à l'aise. Mais au moment où on doit penser cet espace par et pour les femmes, c'est très compliqué parce qu'en fait on vient toucher à des choses de l'ordre de l'inconscient, à des choses de l'ordre de l'histoire personnelle, et c'est compliqué d'objectiver ça en critères d'aménagement. Et on va avoir le même sujet quand on parle des enfants, quand on parle d'autres publics très spécifiques. Et donc souvent on a une théorie, une pensée qui est assez développée sur ces sujets, mais on a des outils qui demandent à ce que l'urbanisme vienne croiser d'autres disciplines, qu'on vienne nous raconter ce qui des fois n'est pas encore au stade de l'expression, mais qui est encore dans la tête, les peurs des gens. On peut avoir peur sans avoir conscience qu'on a peur. On peut avoir peur sans avoir de quoi on a peur. Donc ça nous rend l'exercice passionnant, mais très complexe sur les espaces publics.
Et on peut dire que à ce stade où on en est, en tout cas en France, sur les sujets de prise en compte du genre dans la conception des espaces publics, oups, j'ai fait une bêtise. Ce que je disais, où on en est en France dans la conception des espaces, la prise en compte du genre dans la conception des espaces publics, on va avoir essentiellement une prise en compte de la manière dont on installe le mobilier, par exemple dans l'espace public, qui permet d'avoir une vision périphérique sur les espaces, de pas se retrouver surprise par quelqu'un qui arriverait. Par derrière. On va avoir tout un mouvement de toutes les questions de toponymie, de comment on nomme les rues, les places, comment on fait exister des femmes dans nos espaces. On va avoir tout un tas de questions sur la lumière, l'éclairage de l'espace public, toutes ces questions de l'éclairage qui s'allume tout seul quand tu passes. Mmh. Ça, c'est clairement pas un truc qui a été inventé par une femme. Pour donner quelques exemples, ce sont des sujets qui ne sont pas absolument résolus, parce qu'ils sont très complexes, mais il y a beaucoup d'expérimentations et de choses très intéressantes qui se passent autour de ça.
Et comme tout est complexe, ce sont aussi des sujets qui viennent des fois en contradiction avec d'autres problématiques. Je reviens juste sur l'éclairage. Là où l'éclairage, on en a besoin le soir pour se déplacer, pour baisser le niveau d'inquiétude, on a un sujet aussi sur faune et flore, le soir, la lumière en ville. Passons, on va y passer 1000 ans.
Absolument. On pensait aussi, juste un tout petit clin d'œil, une thématique qui, tout comme le genre dans l'espace public, moi me
crée de la peur.
Me crée de la peur et puis me préoccupe énormément. Tous les sujets de... Donc on parle toujours de la question de la peur qui nous permet d'éviter les dangers contemporains. La question du choix du territoire en fonction de l'éco-anxiété. Moi, je viens du Sud-Ouest. C'est Ali qui parle. Je viens du Sud-Ouest et... Alors, malgré ce qu'on a vécu ces dernières semaines en Bretagne, je dois quand même dire que c'est hyper important pour moi d'être m'être installée en Bretagne, notamment pour des questions de canicule, de rapport à la chaleur, de tous ces risques et de tous ces dangers qui sont autour des sujets du changement climatique. Et que du coup, ces éléments-là peuvent, cette peur liée au changement climatique peut aussi entraîner un rapport au territoire et un rapport à l'implantation qui va être variable.
En tout cas, ce qu'on s'est dit par rapport à ça, et quand tu parles notamment de la canicule, on comprend bien, et de l'éco-anxiété finalement, on comprend bien que la peur, en fait, elle va nous permettre d'éviter des endroits qui nous mettent en danger, ou du moins d'avoir une conscience des endroits qui nous mettent en danger pour avoir des stratégies adaptatives. Et pour affronter nos peurs, on va mettre une chanson qui est dans un film qui redonne pas mal de force et d'élan, même si c'est un film très dur aussi à regarder. Donc un superbe film qui s'appelle 120 battements par minute, et on vous passe Small Town Boy de Bronski Beats. We'll be right back. toujours sur Canal B dans l'émission D'Encreuse et aujourd'hui on regarde d'un peu plus près pourquoi certains endroits nous font peur et pas d'autres et quelle est la fonction de la peur dans ce sujet un peu d'urbanisme. On a vu tout à l'heure les choses un peu évidentes, que la peur elle nous sert à éviter des endroits qui nous mettent en danger. Là on rentre un peu dans les trucs un peu plus niches. Donc là, je prends ma casquette plutôt d'un Stefan Bern qui prendrait un virage fortement sur la gauche. Et on va essayer de regarder que la peur, elle peut aussi avoir une fonction un peu plus complexe, celle de nous transformer, de nous aider à passer une étape. Et pour ça, donc Stefan Bern, c'est en lien avec l'histoire. Pour ça, on va regarder comment des fois la peur, elle permet de passer à l'âge adulte, en passant d'un lieu à un autre. Et je me suis replongée un peu dans mes études d'histoire où il y avait une présentation par une enseignante du rôle de la cryptie à Sparte, en Grèce, qui m'avait plutôt marquée quand j'étais jeune adulte. En gros, dans l'Antiquité, en Grèce, les Spartiates, d'ailleurs on dit quelque chose de Spartiate, c'est quelque chose qui est vraiment sommaire, rude. Et bien en fait, certains jeunes Spartiates qui avaient environ 20 ans, on leur disait de pratiquer, enfin on les obligeait plutôt à pratiquer la cryptie à la fin de leur formation. Grosso modo, ils étaient envoyés tout seuls ou par petits groupes dans la nature, en dehors de la cité. Et le but du jeu, si tant est que c'était un jeu, c'était de devoir survivre avec le moins de ressources possibles. Et en fait, on les envoyait dans la nature en dehors de la communauté pour qu'ils apprennent à développer leur endurance, leur autonomie, leur ruse, leur stratégie. Et c'était une fois qu'on avait passé cette épreuve de passer du territoire de la cité au territoire de la nature dangereuse car sauvage, qu'on pouvait octroyer le statut de citoyen au sein de la cité. Et du coup, là, c'est intéressant par rapport aux évidences de tout à l'heure, c'est que là, la nature, elle fait peur, mais elle est nécessaire pour pouvoir se transformer. Et on se dit que c'est bien en se confrontant à ces peurs les plus primaires, la soif, la solitude, la faim, la nuit, que le jeune Spartiate va pouvoir devenir un citoyen de la cité et être en capacité de défendre sa cité. Et ça, on a trouvé que c'était pas mal intéressant pour aller regarder un peu ces endroits qui font peur autrement que comme des endroits à éviter. Même si je n'ai pas du tout envie d'être une jeune Spartiate et qu'on m'envoie faire ça, mais il y avait une fonction collective de se confronter à ces peurs.
On fait pas ça dans le 7-7 toujours ?
On fait pas ça dans le 7-7, on fait du woofing. c'est tout autre chose. Et cette fonction de la nature... Alors ça, on peut le retrouver peut-être dans le 7-7 de façon beaucoup plus glauque. On le retrouve aussi avec la forêt au Moyen-Âge, où la forêt, elle est mise en opposition au village. Le village, c'est le monde protégé, là où on connaît les gens, les règles, où la communauté surveille. Et la forêt, et d'ailleurs c'est vachement resté dans nos mythes et notre propre rapport à la forêt, là c'est un monde dangereux, on y est seul, on peut se perdre, on peut disparaître, on n'a pas de repères, on peut se faire manger par un loup, etc. C'est sans rappeler l'histoire de notre petite chaperonne rouge qui a amené le petit pot de beurre à grand-maman. Mais,
Mère grand.
Excusez-moi.
Oui.
Excusez-moi. Ce qui est marrant avec cette histoire, là encore une fois je dis c'est marrant mais c'est pas du tout marrant, ce qui est en tout cas étonnant dans cette histoire, c'est que on explique une histoire à des enfants qui passent par la forêt pour expliquer la transition d'un enfant d'une étape à une autre. On a choisi de pas vous parler du chaperon rouge parce qu'on se dit que vous êtes complètement au fait de ce qui s'est passé pour le chaperon rouge. Par contre, on est retourné dans Hansel et Gretel. La jeune Gretel Thunberg. On est retourné sur ce conte parce que lui, on trouve qu'il est aussi révélateur de ce qui se passe dans ce rapport à des endroits qui font peur. En gros, Hansel et Gretel, pour se rappeler les contes pour enfants, c'est ils ont leurs parents qui décident de les abandonner dans la forêt parce que les parents n'arrivent plus à les nourrir. Et donc, du coup, là, la forêt va vraiment jouer un rôle d'exclusion sociale. On est laissé dans les bois, en dehors de la communauté. Et tout le but du jeu pour Hansel et Gretel, ça va être de retrouver leur chemin pour survivre. Et ils vont mettre, façon petit poussé, là, il y a tout le bordel des contes qui se mélangent. Ils vont essayer de retrouver leur chemin grâce à des cailloux et des miettes de pain. Ce qui est intéressant ici, c'est que la forêt, on est dans une époque où on est très sédentaire, on voyage peu, et donc c'est la connaissance de ton territoire local qui te permet de survivre. Et bien, en fait, on t'éloigne pour te mettre en difficulté. Et c'est la forêt qui est le monde, finalement, où il n'y a plus les liens, comme on disait tout à l'heure, la différence entre village, forêt, qui garantissent la protection, la survie. Il n'y a plus les parents, il n'y a plus la maison, il n'y a plus le village, et les protagonistes sont seuls face à leur peur. Voir, et c'est pour ça qu'on a choisi Hansel et Gretel plutôt que le Chaperon Rouge, quand ils sont dans la forêt, Hansel et Gretel, ils tombent sur une sorcière. Et donc la forêt, c'est aussi le lieu où il y a, je mets des guillemets, des monstres, mais surtout il y a les étrangers qui vivent isolés de la société. Et en tant qu'étranger qui fait peur, eh bien en fait, ces étrangers les mettent en danger, veulent les manger. Du coup, tout ça, que ce soit la cryptie ou la forêt, pour se dire qu'en fait, bah, la peur, elle est aussi considérée dans nos civilisations comme nécessaire pour passer un rite d'initiation, pour passer d'un endroit où on est dans l'enfance à un endroit où on est adulte, d'un endroit où on est donc dépendant à un endroit où on est autonome. Et on a essayé de faire des parallèles complètement abusifs entre l'époque Stéphane Bern et notre époque. Et on se dit, bah, en fait, ça fonctionne quand même un peu, même si on n'est plus du tout dans des rites d'initiation où nous-mêmes, on considère qu'il ne faut pas être un tanguy, qu'il faut partir de son domicile familial, qu'il faut déménager, qu'il faut s'extraire pour mieux apprendre à se connaître. Et donc, s'extraire, c'est la curiosité, mais c'est aussi être confronté à des inquiétudes, des peurs. On se disait aussi, bah, voilà, toute la mode ou tout l'intérêt aussi de faire un Erasmus, un voyage, etc., quand on sort de sa formation et qu'on est juste avant d'entrer dans la vie adulte avec ses devoirs et obligations. Voilà, on a aussi cette demande de sortir de l'environnement familier, de confronter ses peurs, et ça passe aussi par le territoire.
Et en même temps, si je prolonge ce que tu viens de dire, là, il y a une dimension dans le rite initiatique et le rapport au rôle du territoire dans ce rite initiatique. C'est une perception, une conception très individualiste,
ouais,
de ce rite, alors que on peut aussi le voir d'un point de vue collectif.
Mais
ou
attends,
au contraire,
Alice, les jeunes Spartiates, ils pouvaient être deux ou trois hein, quand ils étaient tous à la poêle en dehors de la cité.
Ah, autant pour
c'est
moi.
C'est pas si individualiste
pas
que
si
ça.
Individualiste, autant pour moi. Mais ils n'étaient pas forcément, ils gagnaient pas tous. j'ai perdu mon fil.
Ah oui, pardon, tu disais que ça servait aussi à se regrouper, enfin ouais, que le lieu, il pouvait créer aussi une approche plus collective.
Carrément.
D'affronter
et
la peur.
On a tiré un fil, j'espère qu'il ne serait pas abusif, d'un ouvrage passionnant qui a vraiment marqué ma jeune, je sais pas comment on dit, ma fin d'adolescence, mon début de l'âge adulte. C'est un livre d'un sociologue qui s'appelle Robert Castel, qui a écrit un livre qui s'appelle L'insécurité sociale, qu'est-ce qu'être protégé, date de 2003. Et alors la thèse centrale de Robert Castel, c'est de constater le fait que le sentiment d'insécurité est plus fort dans les sociétés modernes que dans les sociétés passées. Et pourtant, il constate que ce sont des sociétés objectivement beaucoup plus protégées que les sociétés traditionnelles. Et en fait, il analyse le fait que le sentiment d'insécurité repose en fait sur l'érosion des mécanismes collectifs qui assuraient la sécurité, et non pas la sécurité civile, mais la sécurité sociale. Avoir un emploi stable, pouvoir bénéficier d'un état social, avoir des mécanismes de solidarité collective. Et en fait, c'est cet affaiblissement des protections collectives qui ne permettent plus aux individus d'être autonomes et de maîtriser les risques, et donc de se sentir dans une situation de sécurité, ou en tout cas un sentiment de sécurité. Et du coup, on a tiré un peu le fil de cette thèse super intéressante, qui en plus a été développée juste en point de référence juste avant, enfin, quelques années avant la campagne présidentielle de 2007, où tous ces sujets de sentiment d'insécurité à la fin du mandat de Jacques Chirac et au moment de la présidentielle qu'a remporté Nicolas Sarkozy ont été extrêmement médiatisés, assez mal traités d'ailleurs, où on a beaucoup regardé les sécurités civiles et pas trop la sécurité sociale justement. En tout cas, on comprend ici que la peur n'est pas qu'une affaire de psychologie individuelle, justement, pour reprendre ma petite transition de tout à l'heure, et qu'elle est liée bien sûr à la question de « suis-je protégé ?», mais qu'elle peut avoir des réponses très collectives. Quand on rentre dans un lieu, on va évaluer inconsciemment plusieurs éléments. Est-ce que ce lieu est habité ? Est-ce que je connais ce lieu ? Est-ce que je connais ses règles de fonctionnement ? Est-ce que je connais les gens ? S'il m'arrive quelque chose, est-ce que quelqu'un viendra m'aider ? Est-ce que je suis visible ? Est-ce que je peux partir facilement ? Etc. etc. Et on évalue plus finalement la présence de protection et de garantie que l'absence de risque. Et ces protections et ces garanties, c'est de ces protections et de ces garanties que naît le sentiment de sécurité.
C'est intéressant parce que du coup, ça nous fait regarder le sujet, par exemple, de la forêt différemment. La forêt, elle fait peur pas tant parce que c'est la forêt et que c'est la nature, elle fait peur aussi parce que dans la forêt, les protections ordinaires, elles disparaissent. Le filo social, il est plus là. Il y a plus de co-visibilité, on n'a plus de famille, on n'a plus de voisins, etc. Et là-dessus, il y a un guide qui est intéressant de Marie-Albert que j'ai découvert l'année dernière, Rando Solo, où elle explique qu'en fait, pour une fille, randonner en forêt, c'est beaucoup plus sécurisant parce qu'il y a moins de risques de rencontres malencontreuses que finalement des fois être dans un espace public ou une foule.
Je voulais dire ça, quoi. Je vois que le temps file grandement et que, évidemment, comme d'habitude, on a prévu de vous dire plein de choses et qu'il va falloir tailler dans l'art. Mais quand même, on peut...
Je parle d'Angers.
Ouais. Ouais.
Ouais, ok. Je taille dans le lard, mais doucement. En fait, ce truc-là, d'avoir des remparts, la présence des gens autour de nous pour nous sentir en sécurité, nous, on a été vachement étonnés dans une mission qu'on a menée à Angers, où, en gros, on arrive dans un quartier, il faut réaménager les espaces publics, on fait une démarche participative, les habitants nous disent, voilà, il y a des points de deal à tels endroits du quartier. Et nous, on connaît pas ce quartier, on connaît pas bien Angers, on se dit, alors comment on va pouvoir limiter la présence des dealers dans ces espaces publics? Et en fait, en échangeant avec les gens, on découvre que finalement, la présence des dealers, elle les rassure. Parce que la présence des dealers, c'est garantir finalement que quelqu'un surveille toujours l'espace public, qu'on a une forme de tranquillité qui est maintenue pour les bienfaits du business. Et du coup, finalement, là, c'est plus la présence que la légalité qui va rassurer les habitants. Et on s'est référé à une philosophe qui s'appelle Jane Jacobs, qui est aussi urbaniste, et qui parle des yeux de la ville. Et en gros, un espace public vivant, il bénéficie toujours d'une surveillance qui va être diffuse. Et c'est ça qui rassure. Et finalement, peu importe si les observateurs, j'exagère parce que le temps nous est compté, peu importe que les observateurs soient vertueux ou pas, le fait que quelqu'un surveille, c'est ça qui rassure. Et on trouvait que c'était une bonne continuité de ce que Alice présentait sur Robert Castel. Donc dans nos trucs plus niches, on voit bien que finalement, la peur, elle permet de passer d'une étape à l'autre, que la peur, elle permet aux humains de se dire, d'un lieu à l'autre, pardon, qu'elle permet aussi aux humains de se dire, on se regroupe, on se sécurise ensemble, on se voit les uns les autres, on se protège. Et on voulait aussi ajouter que la peur, dans les trucs un peu plus complexes, elle va nous permettre aussi en tant qu'émotion d'arbitrer, de peser le pour, le contre, et d'être en position finalement d'agentivité, de pouvoir choisir. La peur nous fait réfléchir. Et on va pas s'éterniser. Je voulais simplement dire que finalement, c'est parce qu'on a eu peur dans des endroits qu'on opère certains choix de passer d'un endroit à l'autre. Moi, j'aime... T'allais dire un truc.
Ouais, je voulais dire, tu penses que c'est pour ça que t'as pas trouvé un boulot qui fait que tu travailles à la Défense ?
Oui, je crois que c'est pour ça. Je disais à Alice la dernière fois que gamine, quand on passait en voiture au niveau du périph' ou de la Francilienne avec mes parents, alors du coup, c'était pas la Défense, mais c'est le même imaginaire, parce que Melun, c'est moins connu. Il y avait des grandes tours de bureaux, et ça me faisait super peur enfant. Et je me disais, j'espère vraiment que je vais jamais avoir à travailler là, etc. Et c'est des peurs qui sont restées longtemps. Et moi, j'ai cherché un quotidien, aussi avec ce que la vie me permettait, où je pouvais m'assurer que je travaillais pas là. Et donc j'ai fait un choix de territoire en fonction d'une petite peur d'enfant.
Mais attention, parce que peut-être qu'un jour, le tic-tac s'active et peut-être qu'un jour, tu finiras par travailler à la Défense.
Tic-tac, j'prends la sauce et ma chatte, faut que les aigus tournent. Et tic-tac, j'ai trop du liasse pour un...
Kyoto, moi c'est Mishki Toko. Tic tac, je préfère 25, j'ai qu'un petit chiquito. Tic tac, je prends la sauce et ma chatte sans que les aigus tombent. Tic tac, j'ai trop du lias pour un petit chiquito.
On est toujours sur Canal B dans l'émission D'Encreuse et aujourd'hui on regarde pourquoi des endroits nous font peur et pas d'autres. On a vu les trucs les plus évidents, les trucs un peu niches et là on va rentrer dans les trucs carrément plus tordus de pourquoi la peur induit un rapport à nos territoires. Je propose qu'on commence déjà par dire que la peur elle peut nous servir à protéger les autres mais de ses peurs à soi. On écoute Marie.
Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en fait... Là où avant on laissait un périmètre de 2 km pour que les enfants puissent aller jouer, maintenant le périmètre il s'est considérablement rétréci. Et c'est ce qui explique aussi d'ailleurs que on voit des enfants qui ne, enfin moi j'en vois beaucoup dans ma pratique, qui ne sortent plus de chez eux. En fait, ce qu'on appelle les enfants de l'intérieur.
Ouais.
Alors il y a évidemment l'influence des écrans aussi, mais qui ont tellement intériorisé cette peur de l'environnement qu'ils vivent par procuration dans leur chambre.
Donc là, ce que nous dit Marie, c'est que finalement, les enfants et leur rapport au territoire, c'est qu'on a des enfants qui ont intériorisé les peurs de leurs parents, les peurs de territoire de leurs parents, qui sont légitimes, hein, avoir peur des mauvaises rencontres, avoir peur des dangers de la route. Et donc, c'est bien les peurs des adultes qui vont ici dessiner la géographie des enfants. Ça, c'est un peu plus niche déjà que tout à l'heure.
On a pensé à un autre élément sur ces sujets un peu plus niche, un peu plus tordu, comme dit Big Mo. La question de comment on crée de la peur dans la manière dont on va organiser des espaces pour induire des comportements dans ces mêmes espaces.
Un peu plus crado, ça.
Un peu plus crado. On pense évidemment... L'exemple le plus connu, c'est celui des réaménagements haussmanniens sous Napoléon III, donc au milieu du 19e siècle, où on a cherché à contrôler complètement l'espace urbain. C'est une période où il y a beaucoup de barricades, on est dans l'époque de la commune, etc. Et donc on décide de complètement percer ces rues étroites, ces impasses, ces cours intérieures pour créer des grandes percées, les grandes percées haussmanniennes qui ont rendu non seulement plus difficile de faire des barricades, mais qui ont aussi casser des solidarités, des connaissances, des interconnaissances qui permettent de s'organiser en fait au quotidien et de. Alors évidemment, c'est les aménagements haussmanniens, ils sont aussi liés à des sujets des impératifs sanitaires, de création de réseaux, de réseaux d'égouts, etc., de circulation de l'air, etc. Mais il y a toute cette dimension autoritaire et de contrôle qui est très présente. Et ça nous a autoritarisme et contrôle égale prison. Nous, avec Big Mo, on a aussi on a travaillé sur l'ancienne prison des hommes à Rennes, la prison Jacques Cartier, qui a pour vocation un jour de devenir un lieu culturel et citoyen. Et on a découvert du coup toute l'histoire des prisons construites au 19e siècle suite à la nouvelle la loi pénitentiaire de 1875 qui met en place la punition par l'espace avec l'enfermement cellulaire, le fait de ne pouvoir voir que le ciel quand on est dans sa cellule, etc. Vraiment à cette dimension de repentance.
C'est assez catho.
Légèrement. Et du coup, comme disait Michel, comme disait Michel Foucault, ce n'est plus le corps supplicié, mais le corps assujetti à travers lequel on vise le contrôle des âmes. Et nous, on l'a vraiment vu dans la prison Jacques Cartier, cette architecture du panoptique, dans lequel, quand on est au point central de cette grande croix latine, on peut voir l'entièreté de la prison d'un coup d'œil. Et donc, quand on est détenu dans cette prison, on sait qu'on peut être observé tout le temps. Et donc, ça crée un contrôle et une détention par l'isolement et par justement la surveillance qui est hyper intense. Mini référence quand même, petit clin d'œil à une série documentaire sur Arte, hyper intéressante,
oui.
Qui est sorti l'année dernière, je crois, qui s'appelle L'architecture au service de la société, où il y a notamment toute cette question
du panoptique,
de la prison, etc. Il y a d'autres éléments super intéressants aussi sur ces sujets-là. Je me suis perdue dans ma transition.
Mais non, il n'y a pas de souci. On voulait parler aussi de la manière dont étaient aménagées les places publiques. Simplement se dire qu'on pense toujours que la place publique, elle est aménagée pour se retrouver. Mais la place publique, elle est surtout aménagée pour voir ce qu'on fait sur la place publique. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses sur une place publique pour éviter de rameuter, pour éviter de rassembler, etc. Et que ça, c'est aussi des choix politiques et d'aménagement qui sont forts.
Et on est obligé quand même, si on parle de ça, de citer Joëlle Zask, une philosophe passionnante qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand la place devient publique », où elle observe ça, de comment une place peut être citoyenne ou non, et comment nos places ne sont absolument pas pensées pour créer de la citoyenneté.
Dans nos fonctions sur la peur, un peu plus complexe de à quoi ça sert dans notre rapport au territoire, en fait ça sert aussi à éviter certains lieux pour ne pas avoir à subir le jugement des autres. Et donc là on a plus été gratté du côté de la peur sociale. Et on s'est dit avec Ali, mais en fait, le lieu, ça fonctionne un peu comme un révélateur de classe sociale. Et on peut avoir peur d'un lieu, pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il risquerait de révéler qu'on ne possède pas les codes de ce lieu, qu'on en est différent, et donc de révéler notre appartenance à une classe sociale. Pour ça, on a un peu regardé du côté de Rose Lamy, qui a écrit en 2025 un livre qui s'appelle « Ascendant Beauf », où elle parle un peu de ses soirées dans des milieux universitaires, urbains, où on écoute en fin de soirée des musiques, notamment comme Joe Dassin, et où elle commence à comprendre que les gens qui écoutent cette musique-là, ils n'écoutent pas premier degré comme elle apprécie vraiment Joe Dassin, mais ils y mettent de l'ironie, et on passe cette musique pour s'en moquer un peu. Et donc elle commence à toucher de près, ce qu'on touche tous à un moment donné, je trouve, quand on passe de la maison à la vie avec les autres, elle commence de près à toucher la hiérarchie culturelle et sociale. Et en fait, elle commence à toucher aussi à la honte sociale. Et elle comprend que le lieu où elle est, il regroupe des gens qui eux-mêmes sont rassemblés par des pratiques et des codes, et que si elle montre qu'elle n'a pas ces codes et ces pratiques, eh bien en fait, elle va révéler qu'elle ne fait pas partie de cette communauté. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là, la honte, elle ne vient pas seulement de Joe Dassin, même si je trouve qu'il y a pire à écouter, mais elle vient vraiment du regard que les autres posent, et ça se joue dans des lieux. Et ça se joue dans des lieux, on l'a aussi beaucoup vu avec Annie Ernaux, et beaucoup eu d'échanges, d'émissions, qu'on parlait de ça, notamment sur son livre de La Place, en 1983, où elle, pareil, elle vit une forme d'énorme, elle est transfuge de classe, elle passe d'un milieu très populaire à un milieu universitaire et aisé, on va dire, sur le point de vue culturel.
Du bourgeois.
Bourgeois. Et donc, elle va acquérir de nouveaux codes et ça va mener pour elle à une distance qu'elle prend avec son milieu social. Ses parents, ils tiennent un petit bar à Yvetot en Normandie. Et donc, le lieu, lui aussi, il va être porteur de codes. Et donc, elle va essayer qu'on voit le moins possible que son milieu social lui colle à la peau. Et donc, de ne jamais référer à son habitude, ses goûts, la culture qui est incarnée dans ce territoire d'origine à Yvetot, pour toujours essayer de ne pas être vue, d'être assez transparente ou du moins de ne pas marquer son appartenance à cette classe sociale populaire dans d'autres lieux que sont les lieux parisiens, bordelais, universitaires, qui ont ces codes de l'aisance culturelle. Oui, tu voulais dire, Ali ?
Non, je voulais juste un jour, dans un festival qui a eu lieu à l'Antipode l'année dernière, il y avait Loumir Lapré qui intervenait, qui a fait le lien entre transfuge de classe et transfuge de territoire. Et je trouve que ça résonne vraiment avec ce que tu es en train de dire. Et peut-être bien que ce sera un sujet qu'on explorera dans un autre épisode de Dents Creuses.
Oh, la coquine. Ok, les lieux, la peur. Et pour finir, une petite conclusion, quand même, obligatoire.
Oui, tu veux bien conclure ?
Ouais, pour conclure, je vais quand même poser la question que j'ai posée à Marie, puis on va écouter la réponse de Marie. En gros, je demandais à Marie, ok, j'ai tout compris sur le sujet des peurs, à quoi ça sert, que ça a une fonction, que c'est ok de passer un truc désagréable pour répondre à cette fonction, mais pourquoi notre cerveau ne fait pas une mise à jour des peurs en ne gardant que les peurs qui protègent notre survie et en nous débarrassant des peurs, je ne sais pas comment les appeler, mais des peurs de confort, type le stress, la petite anxiété de vie, etc.
Alors, ouais, c'est un peu bizarre comme question. Mais...
Non. Moi, je ne prétends pas du tout avoir des réponses à ces questions complexes. Je pense qu'il faudrait vraiment, c'est l'affaire de spécialistes. Mais moi, je pense que le cerveau, il met des millions d'années à évoluer. Ouais, on garde un cerveau archaïque avec nos peurs primaires qui, d'ailleurs nous aide quand même dans le quotidien, parce qu'on est quand même dans un environnement où on peut se faire renverser par une voiture, où on peut... tout notre environnement, il est potentiellement dangereux. Donc, c'est plus les mêmes sources de peur, mais c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même une émotion adaptative. Et ce que je dirais aussi, c'est que d'ailleurs, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu dans une étude, c'est que plus on est dans un environnement urbain, et plus l'amygdale est en surchauffe, plus on est susceptible d'avoir peur. Alors ça peut aussi se comprendre, mais je pense que c'est que on est peut-être plus en état d'hypervigilance.
Ok, et c'est là que les urbanistes ont du travail à faire. Comment rendre serein nos espaces de vie pour laisser nos amygdales un peu en paix et préserver notre santé mentale? Grosse to-do list.
Pourquoi certains endroits nous font peur et pas d'autres?
C'était Dent Creuse, à la prochaine !